Nous allons faire trois lectures, la première dans Colossiens, au chapitre 1er et au verset 9. Nous voyons que c'est la volonté de Dieu que chacun d'entre nous, nous connaissions sa volonté. Est-ce que c'est important pour vous? Vous êtes là, vous êtes venu servir Dieu, chanter, prier, mais en même temps, on veut aller plus loin, donc discerner la volonté de Dieu. Donc trois lectures. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons, regardez bien, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Donc vous avez vu quelles sont les conséquences lorsque on discerne la volonté de Dieu. Regardez ce texte et vous verrez que ça vaut la peine que nous nous appliquions à discerner la volonté de Dieu. Dans le psaume 143, nous voyons que le psalmiste David fait cette prière qui, bien sûr, correspond à ce que nous allons partager ce soir. Au verset 10, c'est une prière. Je ne sais pas si ça vous c'est important. On a vu l'autre jour que c'est tout. On apprenait tout, en fin de compte. Presque tout s'apprend. Et là, David fait cette prière. Psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Est-ce que c'est votre prière? C'est votre prière, Seigneur, mais quelque chose. J'ai besoin d'être enseigné. C'est qui que nous soyons ici, nous avons besoin d'être enseignés. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Quand quelqu'un peut dire que Dieu est vraiment son Dieu, il a le souci d'être enseigné à faire la volonté de Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et la troisième lecture, c'est dans Romains, au chapitre 12. Nous avons une exhortation de l'apôtre Paul, pour que justement nous allions encore un petit peu plus loin dans le discernement de la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, nous allons lire les deux premiers versets qui nous amènent un petit peu plus loin dans le discernement de cette volonté. Car beaucoup de chrétiens planent complètement par rapport à la volonté de Dieu. Ils s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église, ils font la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà quelques indications supplémentaires. Quelques conseils supplémentaires pour que nous apprenions à discerner quelle est la volonté de Dieu. Dimanche, nous avons partagé, si vous étiez là, sur la vie de Joseph. Joseph a été beaucoup béni, Joseph avait été beaucoup éprouvé. Pourquoi ? Parce que Dieu a pris beaucoup de temps, 13 années, pour le purifier, pour l'épurer et pour en faire l'instrument qu'il voulait qu'il soit. Est-ce que vous êtes prêt à accepter le temps qu'il faudra, les années qu'il faudra pour devenir le vase que Dieu veut que vous soyez? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Quand vous voyez quelqu'un, vous dites, bon, je le vois là aujourd'hui, voilà, je regarde Jérémy, très sérieusement. Voilà, je ne sais pas ce qu'était sa vie avant, je ne sais pas ce que sera sa vie après, mais ce que je sais, c'est que Dieu veut qu'il soit quelqu'un après, qu'il devienne un vase, qui correspondra exactement à ce que Dieu veut qu'il fasse. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. À Joseph, moi c'est vrai que j'apprécie beaucoup la vie de ce garçon qui a été utile pour Dieu parce qu'il a vraiment fait confiance au Seigneur. Je lisais encore tout à l'heure Genèse 40, verset 8, ne le cherchez pas. Lorsque ça faisait 11 ans que l'épreuve dure, puisqu'il a été oublié 2 ans en prison, donc ça faisait 11 ans que l'épreuve durait, et lorsqu'il a rencontré les chansons et le panetier du roi, et qu'ils sont, bon, ils sont malheureux par rapport à ce qui lui arrive, lui, il est dans un très bon état d'esprit. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Vous avez vu comment? Ça prouve que lui, il était positif malgré l'épreuve qu'il traversait. Ça, c'est révélateur. C'est révélateur. Parce que s'il y en avait un qui avait le droit de faire la tête, c'était certainement Joseph. Et au contraire, il se préoccupe du bonheur de ses codétenus. Mais pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui, etc. Et il va leur dire, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Ça faisait que 11 ans que ça durait. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Est-ce que vous en êtes arrivé à ce stade, ce soir, en toute humilité, mais toute objectivité, où vous pouvez dire oui, mais je suis exactement dans le même état d'esprit, je crois que c'est à Dieu qu'appartiennent toutes les explications. Il y en a qui peuvent dire oui, moi je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cet état d'esprit? Ben vous êtes heureux. Vous êtes heureux si vous pensez la même chose. Donc, en acceptant toutes les épreuves, en acceptant toutes ces péripéties, il a pu faire la volonté du Seigneur. Pourtant, nous, lorsqu'on voit l'histoire de Joseph, quand on voit la façon dont ses frères l'ont traité, dont ils lui ont parlé, la haine, la jalousie, la méchanceté, la violence, nous, on voit plus le péché que la souveraineté de Dieu là-dedans. Oui ou non? Quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous dites, bon, mais moi là-dedans, je vois plus le péché que la volonté de Dieu. Et pourtant, David, il dira, Joseph, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Ailleurs, il dira, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. On comprend pourquoi ce garçon était dans une confiance totale. Donc, ça nous apprend, le peu que je viens de vous dire sur le comportement de Joseph, ça nous apprend que nous aussi, nous devons être enseignés à discerner la volonté de Dieu. C'est une chose de prendre le psaume 40, verset 9, où David dit « Je veux faire ta volonté ». Vous connaissez ? Ça, c'est le psaume 40, verset 9. David dit « Je veux faire ta volonté, ô Dieu ». Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez, au fait ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que les Bleus gagnent ce soir pour aller au championnat du monde ? Franchement, je pense que ça nous est complètement égal. Vous êtes d'accord avec moi ? Franchement, moi j'ai mon envie là-dessus, mais je peux vous dire que ça m'est complètement égal. Par contre, je suis sûr que l'on veut faire la volonté de Dieu. Que nous ayons cette joie, lorsque nous passerons devant lui, d'avoir pu discerner sur la terre ce que Dieu attendait de chacun de nous. Comment discerner la volonté du Seigneur ? Alors, premièrement, il y a un conseil, on le sait, mais c'est bien de le relire. Dans Jacques, au chapitre 1er, au verset 22, il y a un conseil qui quand même cadre tout ce que nous allons partager ce soir. Car c'est une chose d'écouter la parole et c'en est une autre de la mettre en pratique. Beaucoup de chrétiens sont malheureux. Beaucoup de chrétiens sont tristes. Il y a des chrétiens qui sont toujours tristes. Pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas été soucieux avec des choses aussi simples que celles que nous allons lire. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc on voit bien dans ce texte qu'il y a deux façons de réagir lorsque la parole de Dieu est prêchée, où on l'écoute, et on se borne à l'écouter, et puis, ou alors on s'applique à la mettre en pratique. Parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu se fasse. Parce que quand même, il y a le fait d'être sauvé, mais après il y a le fait de faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui sont sauvés, mais qui, après être sauvés, ne font plus rien, et l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Parce que justement, ils font partie de ces gens qui écoutent la parole de Dieu et qui se bornent juste à l'écouter, tout simplement. Et puis il y a ceux qui disent, non, je veux l'écouter, et je veux la mettre en pratique, parce que je veux qu'au travers de ma vie, l'œuvre de Dieu puisse se faire. Vous connaissez la parabole du semeur, où il est dit que les oiseaux du ciel, ils viennent, et ils enlèvent la semence qui est tombée en terre. Parce que le sol était pas travaillé. Et ça, c'est dommage que l'œuvre de Dieu ne se fasse pas. D'autant plus que moi je crois, et que nous croyons, que bientôt le Seigneur va reprendre son église. Ça serait quand même formidable qu'il y ait des églises qui travaillent à faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite. Vous souffrez pas, vous, de voir que dans bien des endroits, l'œuvre de Dieu ne se fait pas? Franchement, on en souffre quand on voit que, au contraire, même l'œuvre de Dieu décline, l'œuvre de Dieu piétine, les églises ferment. Il y a des endroits où les églises ferment. Vous le savez, ça? Alors, c'est certainement pas la volonté de Dieu. Alors, c'est vrai que j'ai pris trois textes quand Paul dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ce soir, c'est un petit peu pour ça que nous nous sommes réunis, quand il est dit dans Colossiens, comme on l'a lu, « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté ». C'est extraordinaire lorsque notre cœur est envahi de cette connaissance de sa volonté. Par exemple, ça ne fait pas partie de mes notes, mais ce qu'il est dit, que « Rendez continuellement grâce à Dieu, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Est-ce que c'est écrit ? C'est écrit. « Rendez grâce continuellement ». Voilà. Et quelqu'un qui dit « Seigneur, je veux faire ta volonté » avec beaucoup de ferveur et de teneur, et qui après serait tout le temps en train de se plaindre, on pourrait dire « Mais il y a vraiment un problème grave. » Puisqu'il est dit « Rendez continuellement grâce, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est pour vous dire qu'il ne faut pas se borner à écouter la parole, il faut la mettre en pratique. La volonté de Dieu. Alors que vous avez vu ce que Paul dit aux Éphésiens, Romains. Il dit, vous discernerez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors, où on en est, nous, dans ces trois facteurs, dans ces trois vertus, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je voudrais ce soir juste vous expliquer ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Car je pense vraiment que c'est important que les chrétiens le sachent, ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est quoi ? Au début, lorsque l'on vient à Dieu, qu'est-ce que l'on fait ? On écoute la prédication de la croix et on est touché. C'est ce qui s'est passé ? On est vraiment touché. On comprend que sur la croix, ce n'est pas un enseignant, un prophète qui a donné sa vie, qui a été jugé injustement. On comprend que c'est le Fils de Dieu qui s'est livré pour nous et cela nous bouleverse. C'est quelque chose de bon. On est convaincu de péché, on a quelque chose qui nous attire à lui, il y a tout d'un coup cette bénédiction que l'on voulait, puis presque on s'en moque un peu, c'est pas le plus important, qu'est-ce que Dieu veut ? Il dit repentez-vous, ah ça nous touche, alors qu'on n'était pas du tout venu pour la repentance, mais on sent que c'est important, puis après on comprend qu'il faut vraiment se convertir, accepter Jésus comme sauveur, accepter Jésus comme Seigneur, on obtient la paix, le pardon, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez obtenu la paix, le pardon ? Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est ça qui est bon. Quand Paul dit que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ça c'est bon. Il y a des gens, ils ne veulent pas aller plus loin. Ils en restent à ce qui est bon. C'est déjà merveilleux. Est-ce que c'est déjà merveilleux d'avoir été touché par la prédication de la croix, d'avoir été convaincu de péché, de s'être repenti, de s'être converti, d'avoir obtenu le pardon et la paix ? Est-ce que c'est bon ? C'est ça qui est bon. Et il y a des gens, toute leur vie, des chrétiens, qui en restent là. C'est bon, c'est très bon. C'est bon parce que moi j'aimerais bien que beaucoup de Toulousains puissent dire « je sais ce qui est bon ». Est-ce que vous aimeriez que beaucoup de Toulousains disent « oui, je sais », ou de Néo-Calédoniens disent « je sais ce qui est bon ». Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Mais il y a mieux que le bon. Et beaucoup de chrétiens restent là. Et c'est dramatique. Beaucoup de chrétiens en restent uniquement là. Il reste cantonné à ce qui est bon et c'est vraiment dommage. La deuxième étape, donc, c'est ce qui est agréable. Ce qui est agréable à Dieu. Alors, ça vaut la peine de prendre une concordance. Moi, je l'ai fait ce matin. De prendre une concordance et de comprendre ce qui est agréable à Dieu. C'est vrai qu'être sauvé, c'est bon. Dimanche, moi, je l'ai dit hier au conseil d'administration, mais franchement, quand on a chanté à la Sainte-Seine, « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé », je me dis « Mais qu'est-ce que c'est bon ?» Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir dire « Jésus m'a sauvé ». Vous le réalisez vraiment ? Est-ce que vraiment vous le réalisez ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus bon que ça ? Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment bon. Mais un chrétien, je le répète, il n'en reste pas à ce qui est bon, même si c'est super, il veut faire ce qui est agréable à Dieu. Un vrai chrétien, il veut mûrir. C'est Paul qui a dit aux Corinthiens, voilà, je n'ai pas pu vous parler comme à des chrétiens spirituels, mais comme à des enfants charnels. Vous vous rappelez, Paul explique aux Corinthiens que là aussi, l'œuvre de Dieu avec certains ne peut pas se faire parce qu'ils en sont restés à ce qui est bon. Et c'est vrai que c'est bien de rester à ce qui est bon. Est-ce que c'est bien ? Hein, voilà, Dieu m'a sauvé, j'en reste là. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas rester à ce qui est bon, ils veulent grandir. Est-ce que c'est votre cas ? Depuis combien d'années êtes-vous converti ? Depuis combien d'années êtes-vous baptisé ? Quelles que soient vos années de conversion, est-ce que vous voulez grandir ? Est-ce que vous voulez continuer à mûrir ? Parce que c'est quand même la volonté de Dieu que nous mûrissions. Un chrétien qui cherche, écoutez bien, parce que vous allez vous reconnaître dans l'un, l'autre ou le dernier qui est le top niveau, bien sûr. Un chrétien, il ne recherche pas ce qui lui est agréable à lui. Un chrétien, il recherche ce qui est agréable à Dieu. On voit dessus la différence entre ce qui est bon et être sauvé, c'est bon. Si on vous disait, écoutez, dans 3 ans, il y a 30 000 Toulousains qui vont être sauvés, est-ce que ça serait bien? Ben, c'est bien. Mais ça serait mieux que ces 30 000 cherchent ce qui est agréable à Dieu, parce que l'œuvre de Dieu ne pourrait pas grandir non plus. Alors, un chrétien, il cherche qu'est-ce que c'est qui est agréable au Seigneur. C'est certainement une des raisons pour laquelle on est venu ce soir dans sa maison. Je pense que la raison de votre présence ici correspond à cette pensée. Je veux savoir, non pas ce qui m'est agréable, je veux savoir ce qui est agréable au Seigneur. Je ne veux pas m'occuper que de mes propres besoins. Il y a des chrétiens, c'est pas un reproche, c'est parce que c'est pour bien expliquer ces trois étapes. Il y a des chrétiens qui ne pensent qu'à eux. Il y a des chrétiens, de suite, dès qu'ils se convertissent, hop, ils s'intéressent, non pas à leurs besoins, mais aux besoins des autres. Est-ce que vous faites partie de ces chrétiens-là, dire, bon, j'ai mes besoins, c'est vrai, je te prie pour mes besoins, mais les gens autour de moi ont des besoins. Voilà. On commence à être agréable à Dieu quand on commence à s'intéresser aux besoins des autres. Quelqu'un qui est agréable à Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'intéresse à la bénédiction, bénis-moi, bénis-moi, c'est quelqu'un qui s'intéresse à connaître le Seigneur. Vous connaissez, là, il y a quand même une différence entre vouloir la bénédiction et vouloir connaître le Seigneur. Un chrétien qui fait ce qui est agréable, il ne prie pas pour ses besoins, il prie pour les besoins des autres. Il entre dans une vie de service. Il y a des chrétiens qui ne font rien. Moi, je ne fais rien. Moi, je suis crevé. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je fais ceci. Moi, vous comprenez, j'ai tel boulot. Voilà, devant Dieu, je ne pense pas que ça va être valable, ça. Parce que c'est vraiment triste d'en arriver là. C'est la preuve que quelqu'un veut rester à ce qui est bon, juste au salut. Celui qui est agréable, c'est évident, il entre dans une vie de service, de louange, d'adoration. Ce soir, vous avez été plusieurs à venir prier pour combattre le bon combat de la foi. On a prié pour ceci, pour la Syrie, on a prié pour M. Bordeneuve, on a prié pour la santé de l'un, la santé de l'autre. Voilà, quelqu'un qui commence à être agréable à Dieu, il entre dans une vie de service. Et moi, je plains vraiment les chrétiens qui n'entrent pas dans cette deuxième étape, parce que quand même, il y a une grande joie à servir le Seigneur. On l'a lu. Celui-là sera heureux dans son activité. Je crois qu'il y a une joie à servir le Seigneur. Oui ou non? Il y a une joie, c'est quoi que ce soit. Quel que soit le service, je crois qu'il y a véritablement une joie à servir le Seigneur. Un chrétien, il cherche ce qui est agréable à Dieu. Et je nous encourage à peut-être lire la Bible dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que c'est qui est agréable à Dieu? Par exemple, on va lire un texte. 1 Samuel 2, 26. Ce sont des textes que vous connaissez, surtout le livre de Samuel, c'est un beau livre, le livre de Samuel. 1 Samuel 2, 26, qu'est-ce qu'il nous est dit de ce jeune garçon? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous lisez l'histoire de Samuel, de Anne, de l'histoire d'Israël, et puis tout d'un coup, vous tombez sur le verset, le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Tiens donc. Ça vous intéresse, ça? Donc, vous allez chercher, dans la lecture de ces chapitres qui tournent autour de la vocation de Samuel, de la façon dont il est né, la façon dont il a grandi, la façon dont il a répondu, la façon dont il a réagi, etc. Quelqu'un qui lit le jeune Samuel était agréable à l'Éternel, il va lire la Bible et essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi? Alors faites-le, vous le ferez, et vous verrez certaines choses, je vous le laisse découvrir, ça vaut la peine que vous lisiez les premiers chapitres de 1 Samuel, et vous découvrirez pourquoi ce garçon était agréable à l'Éternel. Ça vous permettra de savoir si vous êtes aussi agréable au Seigneur. Par exemple, dans le Proverbe 11, verset 20, vous le ferez, en fait, hein? Est-ce que vous le ferez? Vous ne me répondez pas. Proverbe 11, verset 20. Alors, c'est un texte. Vous lisez souvent les proverbes? Vous aimez? Moi, j'aime beaucoup lire les proverbes. C'est un livre que j'aime beaucoup. Proverbe 11, verset 20. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Tiens donc, qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Tiens, est-ce que ça vous arrive de prendre un dictionnaire et de regarder la signification d'un mot? Est-ce que ça, moi je le fais encore très souvent. Quand je lis, je ne sais pas vous, mais moi je le fais très 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 souvent. Je prends un dictionnaire, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Puisque celui qui est intègre est agréable à l'Éternel. Alors, j'ai regardé moi cet après-midi dans le dictionnaire, intègre. Oui, alors il y a des définitions, il y en a. Qualité d'une personne qui ne se laisse entamer par aucun vice. Être intègre, vous savez, un casque intégral, vous savez ce que c'est quelque chose d'intègre? C'est quelque chose qui est fait d'une seule pièce. Quelque chose d'intègre, c'est quelque chose qui n'est pas divisé, c'est quelque chose qui est d'un seul bloc. C'est quelque chose qui est vrai. Encore, qu'est-ce qui a été écrit? État d'une chose, voilà, qui est dans son entier, complète. État d'une personne intègre, c'est l'honnêteté, la justice et la probité. Voilà, et quelqu'un donc qui veut discerner la volonté de Dieu et qui veut aller plus loin en étant agréable à Dieu, va incontournablement s'appliquer à rechercher ce qui est agréable à Dieu. Alors, prenez une concordance. Moi, j'ai marqué quelques textes. Je vous les donne. On va prendre un autre encore. Romains 14, 18. Vraiment, je vous encourage à le faire. Parce que je crois vraiment. En tout cas, moi, je l'ai fait il y a des années. Et ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, Romains 14. Romains 14, c'est un chapitre particulier. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce chapitre. C'est un chapitre qui parle des opinions. Vous savez, les opinions, dans les églises, les opinions ont parfois créé des divisions. Est-ce que vous le savez? Qu'il y a des gens qui se sont divisés parce que, et moi je pense que tous les jours sont égaux, qu'est-ce que c'est ça de dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, tous les jours sont égaux. Alors c'est quoi qui est le plus important? Est-ce que tous les jours sont égaux? Est-ce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur? Non mais c'est vrai, il y a des chrétiens qui se sont divisés pour ça. Il y a des gens qui ont abandonné les églises à cause de ça. Parce qu'ils se sont disputés vis-à-vis des opinions. Et regardez, qu'est-ce qu'il est dit au 14 verset 1er, « Accueillez celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas les opinions. » Et je parle des jours parce qu'il en parle, verset 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, etc. Franchement, que vous fassiez une différence entre le dimanche et les autres jours de la semaine, ça ne me gêne pas du tout. Ce qui est important, c'est que tous les jours, on doit aimer le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, vous voyez, on pourrait partager de mille et une situations. Et au verset, regardez, au verset 18, c'est un chapitre moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir par rapport à mon attitude vis-à-vis des gens. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Il y a des gens, non, c'est comme ça qu'il faut faire, moi je vous le dis. Moi j'ai vu des gens qui se sont disputés parce que oui, moi je peux manger du boudin ou il ne faut pas manger du boudin. Et des gens, ils se sont disputés pour ça. Moi je crois que le Seigneur, il regarde si on s'aime vraiment, les uns les autres. En tous les cas, lisez ce chapitre et vous verrez qu'il y a une attitude qui fait que l'on peut être agréable à Dieu. En respectant les opinions des autres et à ne pas imposer ses opinions. Après tout, c'est comme si on se disputait parce que les jeunes sont de la politique de ceci, les autres font de telle politique. Je crois qu'on respecte. Je crois qu'il faut absolument respecter. Alors, si on prend tous les textes, alors je vous donne Colossiens 3:20. Ne le lisez pas. Hein. C'est pour ceux qui veulent peut-être réfléchir. 1 Timothée 2:3. Hébreux 11:6, où il est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 12, 28, la façon dont on doit offrir un culte agréable à Dieu. Acte 10, 35, on va le lire le dernier. Parce que moi, c'est un texte qui m'a beaucoup aidé aussi. Acte 10, 35. Vraiment, c'est un verset qui m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Acte 10, 35, on va lire le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il n'est pas beau ce verset? Franchement, mes frères et sœurs, ça ne vous encourage pas? Partout sur la terre, toutes les nations, lorsque quelqu'un a du respect pour les choses spirituelles et qu'il obéit à ce qu'il demande, la Bible dit que ce gars-là, cette femme-là, il lui est d'agréable. Je ne sais pas si ça vous intéresse, que Dieu puisse dire de vous quand il vous regarde, oui, ce garçon, cette fille, il est bon. Mais non seulement il est bon, mais il m'est agréable. Et quand quelqu'un craint Dieu, quand quelqu'un pratique, c'est vraiment pratiquer, c'est obéir à ce que Dieu demande. Oui, tiens, oh, mais je vais respecter les opinions des autres. Vous voyez, c'est ça, je pratique la justice. Eh bien ça, c'est agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu se fait lorsqu'après qu'on a découvert ce qui est bon, on a l'envie de mûrir et de pratiquer la justice afin de faire ce qui est agréable. Mais ce qui est parfait, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Oui, je pense que ça vous intéresse. Donc dans Romains au chapitre 12, on l'a lu, il y a cette troisième étape où, après avoir obtenu le salut, après avoir envie de mûrir, de grandir et d'être agréable à Dieu, mais c'est quelque chose de très... Franchement, être agréable à Dieu, c'est quelque chose qui peut se faire avec beaucoup de simplicité, avec une simple concordance. Vous verrez vraiment ce qui est agréable au Seigneur. Dans Romains au chapitre 12, j'y reviens, il y a quand même des conseils qui permettent de comprendre ce qu'il faut faire pour être parfait. C'est la volonté de Dieu, puisque celui qui... comment c'est écrit? Oui. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc il faut méditer le contexte. Qu'est-ce que nous indique le Romains chapitre 12, les deux versets qu'on a lus? Alors il nous est parlé de transformation. Vous avez vu au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, cette troisième étape, qui est bien sûr le top niveau dans la vie spirituelle, parce que l'œuvre de Dieu ne peut que se faire si les gens aspirent à ce qui est parfait. Pour aspirer à ce qui est parfait, il faut incontournablement vouloir être transformé. Et c'est là que ça va au-delà de l'étude, au-delà de l'exhortation, au-delà de l'écouter la parole, on l'a lu dans Jacques, ne vous bornez pas à l'écouter, mais cherchez à le mettre en pratique. Offrez vos corps, deux choses, soyez transformés, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez votre être tout entier, votre corps, votre âme et votre esprit. Vous savez qu'il y a des sectes, ils offrent leur esprit à Dieu, mais le corps, comme c'est terrestre, il s'en retourne à la terre, le corps peut faire ce qu'il veut, c'est pas grave. On le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu, ça existe encore aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il y ait des chrétiens qui soient bien d'accord avec cette affaire-là. On offre tout à Dieu, son corps, son âme et son esprit. Vous le savez, c'est par notre esprit que nous connaissons le Seigneur Jésus. Et si nous ne voulons discerner les choses spirituelles qu'avec notre intelligence, eh bien ça ira pas bien loin. Les gens ne seront pas touchés, ça sera intellectuel. Non, je crois que nous connaissons les choses spirituelles d'une manière vraiment spirituelle, par notre esprit. Un chrétien doit accepter cela. Bien sûr qu'on va vite là, bon, agréable, parfait, mais en fait ça suffit en une demi-heure, pour que nous comprenions cette évolution qui doit être vraie. Je bénis Dieu pour ce qui est bon, quand on commence un cantique en chantant, c'est la joie du salut, tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent chanter ce qui est bon, mais ils ne peuvent pas chanter ce qui est agréable. Et ainsi de suite, on peut chanter ce qui est agréable et ne pas offrir sa vie en entier au Seigneur. Si un chrétien refuse d'offrir vraiment sa vie à Dieu, son corps à Dieu, son âme, il ne pourra pas être transformé. Et cet aspect de perfectionnement, eh bien, lui échappera complètement. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de ce que M. Olé nous a enseigné. On peut le lire quand même. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, juste après, on voit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, Paul, justement, souffre de ce que dans l'église de Corinthe, il y ait ce blocage. Vous voyez ? Alors, il faudrait lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, à chapitre 3, verset 2. Mais on va lire ce qui nous intéresse. Faites-le cette lecture en entier. 1 Corinthiens chapitre 2. Non, il faut lire le verset 9 du chapitre 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, regardez bien le reproche que Dieu est obligé de faire, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Puisqu'il y a des jalousies, etc. Donc il est en train d'expliquer qu'on ne peut discerner les choses spirituelles que par l'Esprit de Dieu, que par notre esprit qui habite, qui accueille véritablement l'Esprit de Dieu. Et pourquoi l'apôtre Paul, vous avez lu les propos de l'apôtre Paul, les enseignements de l'apôtre Paul, qu'est-ce que Paul fait? Il n'arrête pas d'exhorter les chrétiens à se consacrer entièrement à Dieu, comme on vient de le lire dans Romains au chapitre 12. Et c'est exactement ce que nous voulons faire, nous consacrer vraiment au Seigneur. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Je pense que si on est là ce soir, on veut faire l'œuvre de Dieu. Alors, comprenons bien une chose. Les choses spirituelles ne se comprennent pas avec l'intelligence. Les choses spirituelles se comprennent avec l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que l'œuvre de Dieu pourra se faire. C'est comme ça que pourra s'opérer cette transformation. Est-ce que nous éprouvons le besoin d'être changés encore un peu? Ou est-ce que vous dites, ça va, je suis très 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 bien, moi je trouve que je suis même mieux que les autres, est-ce que vous en êtes là? Ou est-ce que vous dites, non, moi je veux être transformé, puisqu'il est dit, soyez transformés, je veux être transformé. Pourquoi Paul nous met-il en garde de ne pas nous conformer au siècle présent? Vous savez, le siècle du monde, c'est un véritable aimant. Oui ou non? Dans le monde, mais tout est fait pour que nous soyons aspirés par le monde. Et le diable, si Dieu nous connaît très 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 bien, le diable ne nous connaît pas si bien que ça, mais quand même, il sait très bien ce qui nous plaît. Et il saura très bien travailler de sorte que les choses du monde nous attirent à nouveau. Il y a des gens qui sont attirés. Pourquoi les chrétiens rétrogradent? Parce qu'ils sont tout à nouveau attirés par les choses du monde. Ils se conforment à nouveau aux choses du monde. Il faut faire très attention. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il est impossible à un homme de discerner ce qui est agréable et encore moins ce qui est parfait s'il se conforme à l'esprit du monde. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens patinent complètement lorsque vous leur parlez de consécration, de sanctification. Ils vous regardent, ils ne comprennent pas. Et ils ne peuvent pas comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on peut comprendre ces choses. Il y a des chrétiens qui sont charnels, les chrétiens qui sont toujours en train de se disputer, d'ergoter sur un truc, de polémiquer. On l'a vu là-dessus. Vous êtes encore charnel dans l'église de Corinthe, il y avait vraiment un comportement charnel. Et il a fallu que Paul leur explique comment changer. Faisons attention aux choses du monde. Moi je suis étonné parfois de voir combien les chrétiens aiment les choses du monde. Je ne sais pas si vous aimez vraiment les choses du monde, mais c'est quand même un danger. Alors il y a des choses qu'on aime dans le monde, il y a des choses que Dieu veut, qu'on apprécie, il y a des choses saines, mais il y a des choses qui sont malsaines. Et je pense que ces choses-là, il faudrait vraiment s'en séparer. La Bible, au contraire, nous invite à nous conformer à l'image de Christ. Et c'est là que nous voyons exactement où nous en sommes. Est-ce que nous sommes attirés par les choses du monde? Est-ce que nous nous conformons au monde? Ou est-ce que nous nous conformons à l'image de Christ? On va terminer avec cette lecture dans 2 Corinthiens au chapitre 3. Justement, 2 Corinthiens chapitre 3, il y a un texte pour être transformé. On a parlé tout à l'heure du miroir de la parole, mais là il nous est parlé de notre miroir. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est un texte très important pour ceux qui veulent, non pas ce qui est bon, non pas ce qui est agréable, mais ce qui est parfait. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, donc, le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes, regardez bien, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Ce texte nous indique simplement qu'on n'est pas transformé en servant. Il y a des gens qui servent Dieu, qui servent Dieu, qui servent Dieu et qui s'éloignent de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on connaît Dieu. Le texte est clair et ne peut pas être plus clair. Nous sommes transformés en étant avec le Seigneur. Donc dans la présence de Dieu, nous ne nous en rendons même pas compte, mais nous changeons. Nous sommes transformés par l'image du Seigneur. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, à moins que cela soit, alors que ce soit superstitieux et routinier, mais dans la présence de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous priez, nous sommes transformés. Alléluia. On n'est pas transformé par le service. Des fois, on voit des gens, pourvu, qu'est-ce qu'il est zélé, celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est zélé. Celui-là, il fera quelque chose. Mais je suis désolé. Ce n'est pas parce qu'on est zélé pour Dieu qu'on va être transformé. Et ne nous leurrons pas par le service et l'esprit du service. Il est évident que quelqu'un qui avance dans ce processus de grâce, de ce qui est bon, agréable et parfait, ça passe par le service. Mais la perfection ne passe pas par le service. La perfection, ça passe par le fait de rester dans la présence de Dieu. Est-ce que vous aimez rester dans la présence de Dieu? Dis voilà, Seigneur, je veux que tu me parles, je veux rester là, je veux être changé. Il y a des gens qui restent des heures devant des jeux vidéo et sans s'en rendre compte, ils sont transformés. Ils vont vous dire, mais non, c'est qu'un jeu. Moi, je vais vous dire, un gars qui passe 5 heures devant un jeu vidéo, il est transformé à ce qu'il est en train de voir. Ce n'est pas possible autrement. Quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu, eh bien, il est transformé à l'image du Seigneur. Quand vous restez avec le Seigneur, vous êtes transformé à l'image du Seigneur. Quand vous restez dans le monde, vous êtes transformé à l'image du monde. La conformité à Christ, voilà ce que Dieu veut. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce texte nous dit au contraire, soyez conformés à l'image du Christ. Et il faut, vous avez vu l'introduction de Paul, je vous exhorte par les compassions de Dieu. Vous savez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut que l'amour de Christ nous presse. Quelqu'un dans sa prière, je ne sais plus qui a dit, voilà, c'est Jérémie je crois, que l'amour de Dieu nous presse. Connais de la compassion, pas toi, l'autre, je me tiens. Que l'amour de Dieu nous presse. Est-ce que c'est votre prière, Seigneur, que ton amour me presse? Vous savez quand Paul dit l'amour de Christ nous presse, et le mot en grec signifie on est entouré de toutes parts, on ne peut pas s'échapper de l'amour de Dieu. Vous ne trouvez pas qu'elle est belle cette image? Le gars il est entouré de l'amour de Dieu, il ne peut pas s'en échapper. Parce que ces choses-là ne se font pas comme ça intellectuellement. Ces choses-là, elles se font par la compassion du Seigneur. Et c'est pour ça que Paul dit, ouais, il parle de transformation, il parle de ne pas se conformer au monde, d'offrir son cœur à Dieu et surtout de le faire par l'amour du Seigneur. Et s'il y a bien une chose qu'on doit demander au Seigneur, Seigneur, que tes compassions m'étreignent. C'est Habacuc quand il voit tout ce que Dieu lui dit, écoute, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Et je crois qu'on voit la colère qui vient. Oui ou non? Ou est-ce que vous avez besoin d'une étude dessus? Est-ce que vous voyez la colère de Dieu qui vient? Eh bien Seigneur, dans ta colère, que mon cœur soit rempli de tes compassions. Que je sache t'offrir ma vie. Merci pour ce qui est bon. C'est extraordinaire de pouvoir dire mes péchés sont pardonnés. Moi quand on le chante, soit mes péchés sont pardonnés. Moi des fois, on ne le peut pas parce qu'on ne peut pas le faire au niveau pratique. Mais il y a de quoi se lever des fois et dire merci Seigneur. Mes péchés sont pardonnés. Oui, c'est bon. Ah, ça, c'est sûr que c'est bon. C'est agréable de voir quelqu'un qui va aller plus loin. Je veux te servir. Seigneur, je veux te louer. Je veux pas penser qu'à moi. S'appeler à Dieu. De dire, voilà, ah, t'es quelqu'un qui respecte les opinions. Ah, qu'est-ce que c'est qui te plaît? Mais quelle grâce de ressembler de plus en plus au Seigneur. Et vraiment, on est heureux. Parce que quand même, ça plaît au Seigneur qu'on lui soit agréable, mais ça doit lui plaire encore plus quand on cherche à lui ressembler à lui. Et Seigneur, je veux rester dans ta présence. nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que le diable fera tout pour qu'on néglige nos cultes personnels. C'est pour ça que le diable fera tout pour qu'on soit vite, vite attiré par autre chose, alors qu'on devrait être plongé dans la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si on l'a lu. Celui qui aura plongé ses regards, n'étant pas un auditeur oublieux. Et c'est vrai que si on prenait, vous et moi, le temps de reprendre tout ce qui est agréable à Dieu, rien que ce qui est agréable, je vous assure que l'œuvre de Dieu se ferait. Parce que je crois que les gens verraient notre bonheur. Et les chrétiens, quand vous les voyez, ça fait peur, franchement. Tellement ils sont tristes, ils sont angoissés. Mais on peut avoir de la tristesse et procurer la paix aux gens. Oui ou non ? On peut être dans le deuil et procurer la paix aux gens. Moi, je crois que Dieu est un Dieu. Quand Paul parle de ses angoisses, moi, ça ne m'angoisse pas, au contraire. Ça me rassure de voir comment Dieu est avec lui dans les angoisses qu'il est en train de traverser. Oui ou non ? Et mes frères et sœurs, on devrait dire oui. Je ne veux pas me contenter de ce qui est beau. Et ça, parce que ça, l'œuvre de Dieu ne se fait pas. À partir du moment où on cherche ce qui est agréable, l'œuvre de Dieu se fait. Et à partir du moment où on reste dans la présence de Dieu, on est transformé. Et ce qui est parfait devient notre partage. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Vous savez, c'est écrit, moi je bénis Dieu pour la croix. Vraiment, je ne sais pas vous, moi je suis bouleversé par la croix. Mais je vous avoue que le Seigneur a été bon de nous laisser ce livre. Vous savez, il aurait pu nous laisser un livre comme ça ? Oui ou non ? Il aurait pu nous laisser quelques pages, hein ? Je ne sais pas si on méritait que Dieu nous donne tout ça. Parce que quand même, toute parole sort de la bouche de Dieu. Tout ce qui est écrit là-dedans, ça sort de la bouche de Dieu. Et il nous l'a donné pourquoi ? Mais pour qu'on puisse, comme ce soir, avec quelques versets, réfléchir et dire quand même, par ta parole, si tu m'enseignes ta volonté, ton œuvre pourra se faire. Alléluia. Et la colère s'approche. Il faut que les compassions de Dieu soient dans notre cœur. Il ne faut pas être en colère parce qu'il se passe ci, parce qu'il se passe ça. Et croyez-moi, ce n'est pas fini. Mais mes frères et sœurs, par les compassions de Dieu, conformons-nous à l'image de Christ. Éloignons-nous de la conformité au monde. Et ce qui est bon, agréable et parfait sera notre partage.